Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
À toutes et à tous, bienvenue dans Parole aux auditeurs sur Radio Capi, deuxième recensement général de la population et de l'habitat après le lancement du recrutement des agents de cartographie censitaire. Quel défi pour la réussite de cette opération. Parole aux auditeurs aborde ces sujets avec le coordonnateur technique du Bureau central du recensement, BCR, Monsieur Henri Marie Casadi. Monsieur Henri Marie, bonjour.
Bonjour Madame Jocelyne.
Vos questions, chers auditeurs, sont les bienvenues à pa@radiocapi.net ou au 081 32 34 883 ou encore au 089 55 98 83 37 ou encore nous laisser un commentaire sur notre page Facebook Parole aux auditeurs. Je suis Jocelyne Moussa Opondé, je vous présente cette émission. Sylvain Baogueré la met en onde, Nancy Atambo la réalise sous la supervision de Jean-Marc Matoy. Esther Mamboté assure le live sur nos réseaux sociaux. Bienvenue à tous.
Radio Capi, le chiffre du Congo.
Le ministère du Plan, à travers l'Institut national de la statistique et le Bureau central du recensement, a lancé officiellement récemment le recrutement des agents pour la cartographie censitaire du deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Ce deuxième recensement général intervient, rappelons-le, 42 ans après le premier. Quel bilan peut-on faire sur cette phase de recrutement? Quelles sont les précautions à prendre pour la réussite de cette opération? Nous en parlons, je l'ai dit, avec le coordonnateur technique du Bureau central du recensement, BCR, Monsieur Henri-Marie Casadi. Monsieur Henri-Marie, dites-nous d'abord en quoi consiste la cartographie censitaire.
Merci, Madame Jocelyne. La cartographie censitaire est en fait une dérivation d'un concept en lien avec la localisation des entités sur un espace géographique bien défini. Mmh. Alors, dans les cas présents, il s'agit d'une localisation de la population pour raison du recensement. Donc, ça, c'est de manière beaucoup plus simple. Donc, la cartographie de recensement vise à identifier tous les lieux habités, à identifier tous les ménages là où ils sont, de manière à pouvoir découper ou délimiter les pays dans des aires opérationnelles que nous appelons aires de dénombrement. Parce que après l'étape de la cartographie, il interviendra l'étape du dénombrement général. Mais pour que ce dénombrement s'efface avec succès, sans omission ni double compte, nous avons besoin d'avoir déjà les pays subdivisés dans des aires et que chaque aire de dénombrement sera attribuée à un seul agent recenseur qui va le parcourir de bout en bout.
Alors, nous avons déjà des auditeurs en ligne. Maître Patrick Odia nous appelle. Il va nous dire d'où il nous appelle. Bonjour, Patrick Odia. Vous êtes déjà en direct.
Allô?
Prenez la parole, Maître Patrick Odia. Bonjour.
Bonjour, Jocelyne Moussa Mpondé, bonjour à l'invité coordonnateur et à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Parlons du recrutement des agents de cartographie censitaire dans le cadre du deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Est-ce que vous êtes au courant de cette opération?
Au courant comme acteur, mais est-ce que les gens sont déjà saisis, si vous voulez informer également qu'il y a une telle démarche qui est en cours, c'est la question. Et moi, je pense également que partant de cette question introductive, je voudrais également peut-être inviter les coordonnateurs ainsi que tous les services également, que c'est bien beau. Nous-mêmes, les Congolais, avons besoin de ce recensement général pour qu'on sache également que les Congolais sont au nombre de combien aujourd'hui en termes de démographie. Et ça pourrait également donner, ces données peuvent également servir au ministère du Plan et que sais-je encore pour démarrer les vrais développements, parce que le développement sans les coordonnées démographiques, c'est vraiment de l'utopie également. Mais alors qu'on décide de faire, je pense que c'est une bonne chose. Seulement qu'il y a, des aléas de gestion, si vous voulez, de management de ces processus pour qu'il y ait la meilleure réussite de ces processus de recensement général également. C'est basé sur l'expérience des Côte d'Ivoire, Bénin, Cameroun, mais aussi Brazzaville, où j'ai personnellement eu la chance de peut-être vivre, pas peut-être en tant qu'acteur politique, mais aussi en tant que un passager, un touriste qui y est vécu et qui y était pendant ce moment. Je pense que la première ou le premier défi, je vais dire également sur le déficit de la communication, de la sensibilisation. Je ne crois pas que le service ait disposé d'assez de moyens nécessaires, d'outils nécessaires pour pouvoir communiquer, sensibiliser surtout les peuples congolais à ces recensements généraux. Peut-être qu'on n'est pas encore arrivé là, mais dans la prévention, je pense que si la communication, la sensibilisation est faite en amont et bien comprise, je parle de la communication, je pense que les autres étapes qui suivront seront des étapes juste de prolongement également de cette action. Mais dès lors qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a que moi et les coordinateurs et Juscelin Moussa-Ompon de certains auditeurs qui sommes au courant de ces recensements qui sera organisé ou qui est en préparation, je pense que ça pose un problème. Donc, cela également répond à la question comment organiser et surtout avoir la meilleure réussite de ces recensements. Je pense que le premier critère, c'est le déficit communicationnel qui est constaté. Et j'invite les coordinateurs ainsi que leurs services à déjà prévenir, hein, à engager déjà des démarches de sensibilisation de communication. Le deuxième élément également, c'est la cartographie, je vais dire censitaire également. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, avec les découpages, comment cela sera réalisable? Lorsque je parle également, par exemple, des Sud Kivu, des Goma, et certains villages également, des Lituri et tout ça, là où il y a les rebelles, comment les services pensent-ils également, les coordinateurs et ces services, pensent-ils arriver? Et surtout qu'on parle des recensements général, pas partiel, général. Donc je pense que c'est un autre déficit également que les gouvernements doivent essayer de s'y pencher pour voir dans quelle mesure. Ça ne sera pas normal que Jocelyne Moussa-Ompon de Maître Patrick Odia ou les coordinateurs puissent avoir leur carte nationale après 42 ans, mais nos amis, nos frères...
Malheureusement, on a perdu Maître Patrick Odia, mais on a...
Qu'il faudrait également maîtriser.
Oui. Allez-y, vous avez perdu à un moment, mais allez-y, continuez.
Oui, et les ressources humaines et logistiques qui seront organisées. Je voudrais peut-être, pour apprendre un peu, les coordinateurs nous répondent lorsqu'ils prendront parole, les ressources logistiques qui seront utilisées. Est-ce que ce sont les mêmes ressources que la CENI a utilisées ou ces ressources seront différentes de la CENI? Si ce sont les mêmes ressources également, est-ce que les mêmes engins de la CENI seront utilisés pour initier également la procédure de recensement? J'ai entendu ici les gens dire qu'il y a eu recensement, il y a eu recrutement également, mais on n'en parle pas, on ne connaît pas où est-ce qu'on fait. Moi-même qui vous parle, j'ai été formateur territorial à la CENI également, je ne connais même pas là où ça se trouve. Ces recensements, je vais dire ces recrutements également. Est-ce qu'il n'y aura pas également de récompenses, si vous voulez, des recommandations des partis politiques au détriment de certains experts qui s'y connaissent dans les domaines et qui peuvent produire un bon travail de qualité, pas contrairement aux engins qui ont été recommandés à la CENI? Ça aussi, c'est un autre déficit.
Je crois qu'on va s'arrêter là avec Patrick Odia.
Le site des recrutements des ressources humaines, qu'il faut également éclairer pour un bon service également. Voilà un peu de manière intrinsèque, mais sinon la connexion, ce que je peux dire, tout en invitant les coordinateurs et ses services à penser à vider ces aléas de gouvernance, mais aussi, pourquoi pas également demander l'expérience ou l'expertise de certains pays africains, pour ne pas parler de l'Europe ou des États-Unis. Mais au moins certains pays déjà ont cette habitude, 5 ans après, 7 ans après, d'organiser les recensements généraux. Et chaque citoyen béninois, camerounais ou brazzavillois a au moins une carte de résidence qui est différente de la carte d'électeur. Et au jour d'aujourd'hui, moi je n'ai jamais eu la carte d'électeur, j'ai la carte d'identité nationale. Et aujourd'hui, l'avoir, je crois, ça serait pour moi un grand honneur, surtout qu'on est au Congo et ça pourra nous servir avec tous ces défis sécuritaires.
Merci beaucoup, Maître Patrick Audia. Je crois qu'on va clôturer là avec vous pour prendre le coup de fil de Victor Nzuzi qui nous appelle du Congo central. Bonjour.
Bonjour, bonjour à vous, madame, à l'invité et à tous les auditeurs et auditrices qui nous suivent.
Nous vous écoutons, Victor Nzuzi.
Oui, merci beaucoup. En fait, moi, je suis vraiment préoccupé parce que j'entends parler de... J'entends parler, par exemple, de changement ou révision de la Constitution. C'est tout le monde, ça fait du tapage. Mais une grande activité comme celle-ci, les recensements, on en parle peu. Et d'ailleurs, quand vous dites recrutement, moi je me demandais, ce recrutement, il se fait seulement à Kinshasa ou il va aussi se faire à l'intérieur du pays? Parce que nous qui sommes à l'intérieur, moi je suis en Banzaung. En fait, je ne suis même pas en Banzaung, je suis dans un village, hein, à 50 kilomètres de Banzaung. Mais très souvent, quand il y a des recrutements pareils, on prend juste ceux qui sont dans des villes. Et pour des cas pareils, on prend les gens qui viennent de Kinshasa. C'est comme s'il n'y avait pas des expertises sur terrain. Donc quand il y a recrutement, mais on lance ça officiellement et les gens peuvent postuler. Les jeunes maîtrisent aujourd'hui l'informatique et tout autre. Mais aussi, l'ami, le prédécesseur venait d'en parler, nous savons qu'il y a toujours des quotas des partis politiques. Tel parti doit envoyer autant. Il y a le quota de l'expert. Celui qui dirige les recensements, il a tous ses neveux, tous ses... Même nos frères qui habitent comme moi au village, on dit, bon, vous n'allez plus planter le manioc, maintenant vous allez faire le recensement. Ça se passe comme ça chez nous. Ce n'est pas pour dramatiser, mais ça se passe comme ça. Et à ce moment-là, pour un recensement scientifique, on aura tout fauché. Et surtout qu'il faut des millions à engloutir dans cela. Et ces millions, ce sont des dettes que nous prenons, que nous allons payer. Donc si on fait un mauvais travail, ben on sera, on va payer inutilement des dettes et on va compromettre même notre développement. Alors la question que je pose, comment éviter pratiquement tous ces aléas, et la question que je pose aussi à l'expert, aujourd'hui nous sommes dans une situation où pratiquement les Congolais ne sont pas informés. Quelles sont les dispositions qu'il prend pour l'information? Et enfin, je vais faire quelques recommandations. C'est vraiment l'appropriation, que tous les Congolais s'approprient ces recensements, parce que on ne peut pas parler du développement d'un pays lorsqu'on ne connaît pas la population. C'est comme une maman ou un papa qui, dans la maison, il ne sait pas combien ils sont dans la maison. Ben, comment il va budgétiser, que ce soit la cuisine, la restauration ou bien les études? Comment il va budgétiser? Donc, nous devons connaître le citoyen congolais et ça doit être un travail très, très sérieux qu'il faut faire. Enfin, au niveau des médias aussi, c'est un travail parce que je vois toujours les médias qui passent des musiciens, qui chantent. Surtout nous qui sommes à l'intérieur parfois, c'est du folklore avec des musiciens qui chantent les poitrines des femmes, qui chantent... ben voilà. Mais pourquoi dans nos médias, on ne peut pas s'approprier une thématique aussi importante? Parce que ça va de l'intérêt de nos populations. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, moi, en tant qu'agriculteur, je voudrais vraiment qu'il y ait un bon recensement pour que demain, avec l'agriculture, au moins, nous puissions produire et consommer des produits congolais au lieu de perdre 2 milliards de dollars dans des importations parce qu'on ne connaît pas qui produisent, où on doit produire. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Victor Nzuzi, depuis le Congo central. On passe à Brunel Ndombe, qui nous appelle de Bandundouville. Bonjour, Brunel. Brunel, veuillez activer votre micro et prendre la parole. Brunel, vous êtes déjà en ligne. Vous pouvez activer votre micro et prendre la parole. Sinon, si Brunel n'est pas prêt, on passe à Jean Callot de Mbujimayi. Bonjour.
Madame, bonjour aux auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute, Jean Callot.
Oui, effectivement, j'ai appris aussi à travers votre page. Imaginez, je suis à Mbujimayi. Je viens d'apprendre, comme vous avez annoncé là, peut-être j'ai eu le temps aussi de fêter peut-être votre page. La première des choses, je suis en train de me poser autant de questions, madame, par rapport à cette situation. D'abord, les recrutements en soi, on apprend comme on a appris là. Je me pose la question comme notre ami qui vient de parler. Vous savez, nous autres qui avons travaillé à la CENI, nous avons trouvé des choses et nous avons connu des choses. Effectivement, vous allez nous amener, nous qui sommes à Mbujimayi, on nous amène les gens qui sont à Kinshasa. Ceux-là qui sont à Kabengamwanga, c'est les gens de Mbujimayi avec leur expertise qui seront déployés. Mais en soi, moi je pensais qu'une telle opération pouvait avoir une expertise des gens qui ont travaillé par exemple à la CENI. Parce qu'il ne faut pas faire des choses pour faire et pour embrouiller aussi la situation. Parce que je me pose la question, lancer cette opération-là à cette période ici. Ou, excusez-moi parce que ce n'est pas effectivement le sujet, ou peut-être à la longue, à quelques minutes ici, on lance par exemple les référendums, s'il y aura référendum par exemple. Je me pose la question, ce sont des opérations qui vont coûter peut-être au gouvernement beaucoup d'argent. D'abord, ils doivent nous expliquer le financement en soi de ce qui se passe là. Nous ne voulons pas que les gens travaillent demain là, qu'il y ait une démarche, par exemple, pour les agents qui vont travailler. Parce que il ne faut pas embrayer la situation, parce que les gens aiment, vous savez, les politiciens aiment lancer des histoires. Ici, vous voyez, il y a un loup qui passe, de l'autre côté, il y a une chèvre. Vous allez manger quel animal attraper. Alors, moi, je me pose la question, à ce stade ici, comme on a annoncé, effectivement, c'est une opération qui doit être appropriée par tout le monde. Mais au jour d'aujourd'hui ici, si je pose la question à ceux qui passent ici en Mbujimayi, personne ne me dira qu'il y a une opération de recensement de la population. Alors, je me dis, peut-être les gens le font peut-être pour plaire ou bien pour avancer. Parce que je me rappelle, ça fait plusieurs années où le président de la République a veillé, lui, sa carte. On a fait quand même une démonstration. On s'attendait que ça va aller, ça va arriver, mais nous nous retrouvons aujourd'hui avec une telle histoire. Et au niveau de recrutement, madame, est-ce que vous pensez que nous aurons des gens effectivement qui vont bien travailler? Et au niveau de logistique, comme notre ami a parlé, logistique, je me pose la question, ça sera quelle logistique utilisée par la CENI? Ou bien il y aura d'autres matériels qui vont être peut-être appris par les autres qui vont travailler? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer au juste? Comme l'expert n'est pas en ligne, je voulais lui poser la question. S'approprier d'accord, avoir une carte comme tout le monde parle, parce que moi qui vous parle ici, je n'ai jamais eu la carte depuis que je suis né. Même je ne pense pas peut-être mon père à moi. Peut-être, je ne sais pas. Mais je me pose la question, on peut se réjouir, mais les contraintes d'ordre financier, d'ordre logistique, ça va se passer comment, même au niveau même des recrutements des gens. Regardez comment ça se passe à la CENI. Madame, vous pouvez trouver quelqu'un qui est devant une machine pour enrôler quelqu'un, mais qui ne maîtrise, qui ne connaît rien, même les locaux de nos machines simples ici, des PC ici, qui ne connaît pas, mais il est qui? Il est peut-être un neveu d'un chef de l'antenne de la CENI. Il est qui? Il est recommandé, par exemple, de Mbujimayi vers Chilenge, soit de Mbujimayi vers Katanda, de Mbujimayi vers... Ce sont des histoires. Les politiciens dans cette histoire ici, ils vont s'emparer quand même une grande partie et puis pour embrouiller la situation. Alors, ma contribution, je suis content, mais qu'on nous explique réellement qu'est-ce qui va se passer s'il y aura, par exemple, les référendums et les autres histoires, madame. Voilà un peu ma contribution et les inquiétudes que j'ai.
Merci beaucoup, Jean Callot de Mbujimayi. Brunel de Bandoudouville est de retour. Bonjour.
Madame Céline, bonjour à tous les éditeurs de la radio Capi.
On vous écoute, Brunel Ndombe. Brunel Ndombe, est-ce que vous êtes en ligne?
Pour madame, une fois, pour les enfants qui viennent. Oui, je suis en ligne, madame. J'étais en train de dire que c'est une activité qui se passe pour nous, qui sont nés dans le pluie dernier. C'est-à-dire que c'est pour la première fois pour qu'on participe à cette activité de recensement général. Et vous savez, les précautions à prendre pour la réussite du deuxième recensement, moi je pense que au premier recensement, il y a eu bien sûr des évaluations qui ont été...
Je vous corrige, aujourd'hui, c'est vrai, nous parlons du recensement, mais nous parlons plus du recrutement des agents de cartographie censitaire, une opération que vient de lancer le bureau de central du recensement. On parle plutôt du recrutement des agents de cartographie. Est-ce que vous êtes au courant de cette opération?
Bon, oui, j'ai vu dans les réseaux sociaux les appels d'offres qu'on a lancés. Mm-hmm. Alors, c'est ce recrutement que nous devons taper du clou là, parce que vous savez très bien comment les choses se passent ici dans notre pays. Nous avons le problème de recommander et le problème bien sûr des gens qui sont des ceux-là qui sont recrutés réellement. Mmh. Dans les appels d'offres et quand les gens postulent, bien sûr ils déposent leur candidature, mais dans le dépouillement ou soit dans la sélection de ceux qui devront bien sûr participer à l'activité, vous remarquerez que ceux qui ont réussi, ceux qui ont répondu bien sûr aux critères ne seront pas sélectionnés. La surprise, il y a des gens qui nomment pour candidature, mais vous le voyez bien sûr, c'est très triste. C'est-à-dire que lorsque les gens bien sûr postulent, et sont déjà calmes et disent, ben en tout cas pour moi, je n'ai pas de problème, c'est que j'ai bien sûr directement. Et souvent, on ne sait pas bien sûr de ceux qui vivent bien sûr dans le bélier. Avant d'abord de recruter, je pense que dans les critères, il y a eu bien sûr de l'activité. Parce que ceux-là comprennent, connaissent bien sûr, maîtrisent même le milieu et connaître aussi les langues du milieu. Mais vous verrez, on vous amène quelqu'un qui ne connaît même pas le milieu, qui ne connaît même pas l'adresse où il réside. Mmh. Mais il est en train de travailler dans ce coin. Alors, les enfants, ceux-là qui ont bien sûr leur chance, ne seraient trop...
On est en train de perdre...
Et je ne pense pas que nous aurons bien sûr un bon résultat. Mmh. Je suis là toujours avec vous, Madame Jocelyne. C'est-à-dire que quand le parti politique entre bien sûr dans les, quand le parti politique entre bien sûr dans les activités comme celle-ci, moi je ne pense pas qu'on va s'y retrouver parce que ce qui va se passer aujourd'hui dans notre pays, c'est pour nous bien sûr quelque chose et de grande parce qu'on a espéré plusieurs fois, on a eu bien sûr à faire des estimations sur le nombre d'habitants de population congolaise bien sûr. Mais jusqu'à aujourd'hui, on est en train de tâtonner. Alors, cette activité doit bien sûr mériter. Et surtout, les fonds alloués. Comment est-ce que ces fonds-là seraient bien sûr dirigés? Et nous savons très bien qu'on a mis disposé, par exemple, $200 pour une telle activité. Mais lors, bien sûr, de la réalisation, vous remarquerez, il y a, par exemple, 1000 qui est disparu avec les opérations et tout ce que nous appelons le commerce.
On va être obligé de couper cet appel malheureusement parce que la qualité de la liaison. Mais Brunel, on a noté hein, l'essentiel de vos préoccupations. Alors, Monsieur Henri Marie, plusieurs auditeurs évoquent un manque d'informations. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Je commence déjà par leur dire merci pour leurs préoccupations qui sont pertinentes dans l'ensemble. Et c'est vrai que la question liée au recrutement est pour l'instant gérée par palier, je peux dire ainsi. Depuis le lancement officiel le 1er juin de cette année par son Excellence Monsieur le Ministre d'État, Ministre du Plan, le processus a démarré et a été clôturé à Kinshasa depuis les dimanches soir, donc le dimanche à minuit. Et pour l'instant, nous sommes en train de nous apprêter pour lancer les processus dans les restes de provinces. Donc la sensibilisation a été sûrement beaucoup plus accentuée pour les cas de Kinshasa, comme La première étape concernait d'abord le recrutement sur Kinshasa. Et d'ici le lundi 15, nous allons lancer pour les restes des provinces et nous ferons tout pour que la sensibilisation soit accentuée au niveau des provinces.
Mais quels sont les canaux qui ont été utilisés pour lancer justement ces offres? Parce que les auditeurs se plaignent, qui sont à part le tout dernier, hein, qui a dit qu'il a vu sur les réseaux sociaux. Quels sont les canaux qui ont été utilisés?
Nous avons utilisé plusieurs canaux, notamment les réseaux sociaux. Déjà, il faut rappeler que le recrutement lui-même est fait par soumission des dossiers en ligne. Donc, nous avons une plateforme qui est en ligne. Et que les liens avaient été partagés. Je pense que lorsque les gens parlent des réseaux sociaux, c'est ces liens-là qui a circulé à travers les réseaux WhatsApp et consorts. Mais nous avons également utilisé des médias pour pouvoir passer les messages. Nous avons utilisé également les journaux. Ceux qui consultent des journaux en ligne, les cas des médias Congo, ils ont sûrement suivi ou lu les avis en rapport avec le recrutement sur Kinshasa. Et la plupart de nos auditeurs, je sais que c'est des gens qui sont en province, parce que jusque-là, nous n'avons pas encore eu des auditeurs de Kinshasa. Mmh. Mais je comprends que ceux qui sont en province, ils sont encore impatients. Où ils n'ont pas beaucoup plus entendu parler du processus, parce que pour l'instant, c'était d'abord Kinshasa qui était concerné. Mais dans l'optique où nous devons lancer au niveau de province, nous avons intérêt à sensibiliser également les auditeurs au niveau de la province. Et je rappelle qu'au niveau de la province, le recrutement n'est pas seulement en ligne. Nous avons prévu pour les cas des zones les plus reculées, là où la connexion Internet pose problème, nous avons prévu la récupération des dossiers physiques. Donc, il y a des canaux et des points focaux qui seront identifiés au niveau de territoire, là où les gens pourront déposer les dossiers physiques pour les zones non couvertes par les réseaux Internet. Ceci, c'est pour permettre que les cas de ceux-là qui ne sont pas dans les chefs-lieux de province ou de territoire, d'avoir la possibilité de soumissionner. Et l'effort est fait à ce niveau-là pour que tous les Congolais, quels que soient les endroits où ils habitent, qu'ils aient la possibilité de participer au processus. Et également, nous devons garantir à nos auditeurs que les efforts sont fournis également pour garantir une transparence.
Parce que beaucoup ont évoqué le problème de favoritisme, des recommandations des partis politiques. Comment prévenir ces accusations-là?
Voilà, tout à fait. Je sais que en tant que Congolais, on est habitué un peu à ces pratiques qui ne sont pas des bonnes pratiques, que nous devons nous tous combattre. Et au niveau du processus, étant donné que c'est un processus qui n'est pas seulement géré par le gouvernement congolais, le processus est accompagné par les partenaires techniques et financiers, dont UNFPA, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement. Tous ces partenaires du gouvernement et le gouvernement lui-même mettent l'accent sur la transparence au niveau de ces processus. Et il est même prévu le recrutement d'un cabinet d'audit pour évaluer l'ensemble du processus de recrutement. Donc, nous n'avons pas intérêt à faire de la manière dont nos auditeurs ont reproché. Mais ici, nous aimerions que ça soit vraiment de la méritocratie, que ceux-là qui ont un bon profil puissent faire partie de ces processus, qui puissent contribuer.
Et Patrick Odia a posé une question sur cette cartographie avec le découpage, comment ça va se faire, également sur les ressources. Est-ce que vous allez utiliser les ressources de la CENI, par exemple?
Non, déjà, comme nous l'avons dit, c'est une cartographie censitaire, donc c'est une cartographie des populations, donc qui est différente de la cartographie de la CENI, qui était une cartographie orientée vers l'identification des bureaux d'enrôlement. Mais ici, c'est une cartographie qui doit aller vers la population. Donc, nous devons être à mesure de localiser la population, chacun dans son ménage. Alors, pour ça, nous n'allons pas utiliser les machines type CENI, mais nous, ce sont les équipements légers, les mobiles, donc les équipements mobiles, pour nous permettre ou permettre à nos agents d'aller dans les ménages. Donc, ils vont se déplacer vers les ménages. Et nous avons prévu des tablettes pour cet exercice, des smartphones également. Et ce sont des équipements déjà disponibles. Et nous comptons aussi utiliser une partie des équipements dans le cadre de la mutualisation avec les ministères de l'éducation. Également, ils ont un certain nombre de tablettes qui seront mises à notre disposition. Donc, pour ce qui est de la logistique, donc c'est notre propre logistique et la partie complémentaire des ministères de l'éducation. Mmh. Mais là, pour ce qui est des ressources humaines, c'est l'objet du recrutement que nous sommes en train de faire, donc ça sera un personnel spécifique avec une expérience dans le domaine de la collecte des données sur le terrain. Avec les autres critères que certains auditeurs ont rappelé, hein, la maîtrise du milieu, la maîtrise de la langue locale, un certain niveau d'instruction. Donc, c'est des éléments qui sont combinés pour permettre à ce que les recrutements nous permettent d'avoir un personnel qualifié et avec les profils recherchés. Mmh. Et l'idée, c'est que ça ne soit pas les gens qu'on amène de Kinshasa qui vont travailler en province. Donc, les soucis pour nous au niveau du recensement...
Ou d'une province à une autre.
Donc, les soucis pour nous au niveau du recensement, c'est que ce soit les gens qui habitent dans une province, dans une entité, qui soient ceux-là qui participent à l'opération. Donc, pour l'instant, c'est encore la cartographie. La cartographie n'utilisera pas un nombre aussi important que l'étape du dénombrement qui doit suivre.
Et en ce qui concerne les zones difficiles d'accès, comment comptez-vous vous y prendre?
Alors déjà, au niveau de la cartographie avec l'évolution technologique, nous devons rappeler que nous utilisons les images satellitaires déjà pour identifier tous les lieux habités avant même que nos agents n'arrivent sur le terrain. Mmh. Et cet exercice est fait au niveau du bureau où nous avons délimité pratiquement tous les pays dans des aires opérationnelles provisoires en fonction de l'imagerie satellitaire et de ce que nous appelons les empreintes des bâtis. Donc, à partir de l'intelligence artificielle, les bâtiments ont été identifiés et nous avons fait une sorte de zonage en fonction d'un certain nombre de bâtiments pour pouvoir ressortir les besoins ou même ce qu'on peut qualifier d'un terme de charge de travail de l'opérateur. Donc, nous savons déjà qu'un tel opérateur qui sera, ici je parle de l'opérateur cartographe, qui sera envoyé dans telle partie du pays, aura en moyenne tel nombre de jours à faire pour pouvoir terminer la zone qui lui est confiée. Donc, c'est à partir de cela. Alors, bien sûr, nous avons découpé tous les pays, parce que ça s'est fait au bureau, ça c'est sans exception de milieux difficiles ou d'accès difficile. Mmh. Maintenant, l'étape qui reste, celle d'envoyer les agents maintenant sur le terrain, c'est vrai, il y a des coins qui sont caractérisés par de l'insécurité généralisée ou des zones occupées. Ce qui est fait généralement, c'est de prendre langue avec ceux-là qui gèrent ces zones-là, que ce soit des groupes armés ou que ce soit de rebelles. Alors, une telle opération, c'est une opération scientifique qui n'a pas de couleur politique. Et tous les Congolais de partout, ils sont. Qu'il soit celui qui a pris une arme ou un autre, il a les soucis de voir son pays se développer. Donc, lorsqu'on explique de quoi il s'agit, on arrive généralement à s'entendre. Et nous l'avons expérimenté au niveau de l'Institut national de la statistique lors des différentes enquêtes d'envergure nationale. Même dans les zones d'accès difficile ou les zones occupées, nos agents enquêteurs arrivent à y travailler. Donc nous comptons sur cette collaboration pour pouvoir y arriver. Maintenant, s'il y a des cas vraiment extrêmes où les gens refusent catégoriquement que nous puissions travailler, nous allons recourir aux méthodes hybride, donc qui consiste à combiner les données des terrains et les données satellitaires pour pouvoir estimer les effectifs de la population. Et nous rappelons aussi à nos auditeurs que un tel processus, donc le processus du recensement que nous sommes en train de mener, ne conduit pas à la distribution de la carte,
de la carte nationale
d'identité. Donc ça c'est un autre service de l'État, à l'occurrence l'Office national d'identification de la population, qui y a pour mission cet exercice-là.
Et qui va certainement se baser sur les données de ce recensement.
Au niveau de la cartographie, oui, parce que nous avons en 2022 travaillé sur la mutualisation. Déjà à l'étape de la cartographie, oui, l'ONIP va se servir de données de la cartographie pour pouvoir continuer son processus. Mais c'est l'ONIP qui va donner les cartes d'identité. Mmh. Au niveau du recensement, nous visons beaucoup plus les effectifs de la population, les caractéristiques pour la finalité du développement de notre pays.
On va prendre une autre série de questions des auditeurs. Junior Bompongo est en ligne, il nous appelle depuis Kinshasa. Bonjour. Est-ce que Junior Bompongo est en ligne?
Oui, je suis là. Bonjour madame la journaliste, bonjour à l'invité et aussi à des nombreux auditeurs de la Radio Capi. Je me fais entendre, je crois.
On vous écoute, Junior Bompongo.
Bon, je n'ai pas vraiment une question, mais je voudrais seulement faire une petite observation selon laquelle, partant du bilan, le bilan par rapport au processus du recrutement en cours. Parce que moi, je suis en train de voir que le premier bilan de ces recrutements est mitigé. Parce que comment justifier qu'un processus aussi stratégique pour l'avenir démographique, économique et politique de notre pays soit soumis à un délai de candidature aussi court? On a lancé le recrutement le 4 juin et cela a pris fin le 7. Et si je suis en train de voir, le 7 c'était un certain dimanche où la plupart des bureaux ne fonctionnent pas. Les week-ends, il y avait encore presque d'autres bureaux qui n'étaient presque pas opérationnels. Je suis en train de me demander, dans un contexte marqué par les lenteurs administratives et les difficultés d'accès à certains documents officiels qui étaient requis pour la soumission des candidatures, une telle précipitation ne nourrit-elle pas inévitablement les soupçons d'exclusion ou de sélection orientée? Parce que la réussite du recensement dépendra non seulement des moyens techniques mobilisés, mais également de la confiance que les citoyens que nous sommes accorderont au processus. Or, la confiance se construit par la transparence et non par l'urgence. Si peut-être l'invité peut soumettre ma requête, ou bien ce que je demanderais, est-ce qu'on puisse encore accorder ne fût-ce que 3 jours supplémentaires aux retardataires afin de soumettre leur candidature. Merci, je m'y remets là.
Merci beaucoup, Junior Bompongo, depuis Kinshasa. Gentil Basue Kwamba est à Kananga. Bonjour. Gentil Basue Kwamba n'est plus là. On va prendre Franck, qui nous appelle de Vienne. Franck non plus n'est pas là. Alors, on va répondre à la préoccupation de Junior Bompongo. Monsieur Henri-Marie, Junior Bompongo estime que le délai a été trop court hein, pour l'étape de Kinshasa, soit du 4 au 7 juin, et sollicite une prolongation de cette opération. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Je pense que Monsieur Junior Bompongo n'a pas peut-être la bonne information parce que le recrutement a été lancé officiellement le 1er juin. Et du 1er jusqu'au 7 juin, ça fait pas 3 jours. Donc,
Même du 1er au 7, puisque le 7, dit-il, c'est un dimanche. Donc
oui.
Ça nous fait, et puis un samedi avant où le bureau ferme à 12h.
Tout à fait. Nous l'avons rappelé que le recrutement à l'étape de Kinshasa était 100% online. Donc, nous n'avons pas tenu compte du fait que les bureaux ferment ou ne ferment pas. Donc, de n'importe quel endroit où vous vous trouvez, à n'importe quelle heure, vous avez la possibilité d'envoyer votre candidature. Donc, les samedis et les dimanches, dans ces cas ici, ne comptent pas. Donc, Nous allons déjà le rappeler aussi que, au regard du nombre de candidatures que nous avons reçues, nous ne pouvons pas conclure que les recrutements étaient mitigés ou les bilans étaient mitigés parce que nous nous attendions à plus ou moins 2000 cartographes sur Kinshasa, mais nous avons reçu 24 400 dossiers. Donc, c'est fois 10 les nombres de candidatures attendues. Donc, nous ne pouvons pas dire à ce stade que il y a eu des problèmes de communication ou il y a eu des soucis avec ces recrutements à l'étape de Kinshasa.
Nous allons prendre la question ou les questions de Blaise Saïdi qui est en ligne. Bonjour Blaise.
Oui, bonjour Madame Justine. Bonjour à l'invité ainsi que mes prédécesseurs. Et ce qui est très solide de la radio Capi. Cher Jocelyne, les prédécesseurs ont presque tout parlé. Donc, je dois venir quand même compléter quelques éléments. Donc, la réussite de cette opération nationale dépendra de la transparence du recrutement, tel que les autres ont souligné déjà, de la qualité de la formation des agents, de la disponibilité des ressources nécessaires et de la confiance de la population. Cher Jocelyne, à Kisangani, on ne sait même pas de ça. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas connecté, c'est un problème chez vous. Donc, ici, le problème de recensement, ainsi de suite, c'est à la radio Capi qu'on parle. Donc, toutefois, un défi majeur demeure la persistance de l'insécurité et des conflits armés dans l'est du pays, qui ont provoqué d'importants déplacements de la population. Je dois quand même poser quelques questions à l'invité, chère Jocelyne. La première question, quelles dispositions particulières doivent être prises pour réaliser les recensements dans les zones touchées par les guerres et l'insécurité dans l'est du pays? La deuxième question, comment prendre en compte les personnes déplacées par les conflits armés afin d'éviter leur exclusion du recensement? Et la troisième question, quelles sont les principales précautions à prendre pour assurer la réussite du deuxième recensement général de la population? Donc, chère Justine, il est indispensable que les autorités apportent des réponses concrètes à ces préoccupations que je venais de donner là, afin de garantir une couverture complète et crédible de l'ensemble du territoire national. Je me limite à ce niveau-là pour laisser place à d'autres personnes, chère Jocelyne. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Blaise Saïdi. Alors, monsieur Henri-Marie, on va prendre d'autres auditeurs avant de répondre à ces préoccupations de Blaise Saïdi. Michel Moukoumbouela est en ligne depuis Kindu. Bonjour. Michel Moukoumbouela, vous êtes déjà en ligne, vous pouvez prendre la parole. Apparemment,
oui, bonjour, c'est Michel Moukoumbouela, mais je vous reçois vraiment difficilement 1 sur 5. C'est difficile de répondre.
Donc,
1 sur 5.
C'est difficile
avec les problèmes de connexion
d'intervenir. Si vous pensez que vous pouvez parler, nous on vous écoute, hein, vous pouvez poser vos questions à l'invité.
OK.
Allez-y.
Par rapport à la province du Maniema, là vous m'écoutez très bien. Par rapport à la province du Maniema, nous avons seulement.
On va avoir du mal à échanger.
Il y a le territoire de Kabambare, frontière avec Walikale. Oui.
Ça sera difficile de d'échanger dans ces conditions, malheureusement, peut-être pour une autre émission, Michel Moukoumbouela, ou nous écrire. Hein. Vous pouvez également nous faire un message WhatsApp ou un commentaire Facebook. Comme ça, on va adresser votre question à notre invité. Nous sommes Gentil Basuekwamba est de retour. Bonjour Gentil Basuekwamba depuis Kananga. Vous êtes déjà en ligne, Gentil Basuekwamba, malheureusement, on a beaucoup de problèmes de liaison téléphonique. On va donc répondre à Blaise Saïdi qui a posé une question sur les personnes déplacées, les déplacés internes. comment prendre ces personnes en compte.
Ok. Nous rappelons aussi à nos auditeurs qui se sont plus ou moins inquiétés de la question des ressources financières. Je pense que à ces jours, cela n'est plus un problème pour le projet. Mmh. Et même les projets avaient pris beaucoup plus de temps dans sa préparation à cause de difficultés des ressources financières. Donc aujourd'hui, avec toute la mobilisation que le gouvernement a eu à faire lors de la dernière table ronde, nous avons l'essentiel des ressources pour pouvoir mener jusqu'à son terme ces processus. Alors, pour ce qui concerne les déplacés internes, l'étape de la cartographie vise particulièrement à identifier tous ces cas. Mmh. Donc, si les gens ont quitté leur résidence habituelle et se sont retrouvés dans un campement quelque part sur les territoires congolais, la cartographie vise aussi à identifier ces campements. Parce que la finalité, c'est qu'on n'oublie personne et que personne ne soit compté deux fois. Donc, pendant qu'on sera en train de faire la cartographie, vous allez les remarquer dans vos villages, dans vos villes, que parmi les questions qui sont posées, c'est qu'il y a des questions qui nous permettent d'identifier s'il y a des campements, des réfugiés, des déplacés internes, ou même des campements de pygmées dans les environs des villages. Parce que l'objectif aussi, c'est de géolocaliser ces campements, de manière que pendant au moment où nous allons revenir pour le dénombrement général, que nous puissions dénombrer aussi toutes les populations qui sont dans des campements situés ou des campements se trouvant sur les territoires national congolais.
Mmh. Et vous avez parlé de double comptage, hein. Et comment justement les éviter et également les omissions? Quelles précautions vous prenez pour éviter cela?
Donc déjà, l'étape de la cartographie nous permet d'avoir des effectifs au niveau de chaque ménage. Donc lorsque nous passons dans un ménage, l'information essentielle que nous prenons dans un premier temps à l'étape de la cartographie, c'est de savoir combien vous êtes dans le ménage, combien d'hommes, combien de femmes et combien d'enfants de moins de 5 ans. Et on prend aussi les grands groupes comme ça, de la population. Cette information nous permet déjà, au moment où nous serons prêts pour l'étape du dénombrement, de savoir que dans tel village, nous avons cartographié à peu près autant d'individus. Et pendant que nous serons à l'étape du dénombrement, il y a une étape qu'on appelle la reconnaissance et l'établissement des listings des ménages. Donc c'est une sorte de mini cartographie que nous refaisons trois jours avant le dénombrement proprement dit. Cela nous permet encore de reconfirmer les effectifs que nous avons eu ou d'actualiser les effectifs que nous avons eu lors de la cartographie avant de commencer maintenant à dénombrer chaque individu de chaque ménage. Donc cet exercice combiné avec c'est des techniques vraiment scientifiques, démographiques, qui nous permettent d'éviter les cas de double comptage ou même des omissions. Donc c'est comme ça que la cartographie dans un processus du recensement vise vraiment à nous aider à éviter des cas de vraiment des omissions et même de double comptage. Sinon, on passerait directement au dénombrement.
Et il peut arriver que un ménage ou des ménages refusent de collaborer. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas?
Déjà, avant l'étape du dénombrement, parce que là nous sommes à l'étape du dénombrement déjà, nous parlons du dénombrement. Avant l'étape du dénombrement, le président prendra une ordonnance annonçant le recensement, l'étape du dénombrement du recensement, donc avec une date du démarrage. Et dans cette ordonnance, on rappelle que le recensement est obligatoire et gratuit, ainsi de suite. Alors, lorsqu'il y a des cas de résistance sur le terrain, ce qu'on fait, c'est d'abord sensibiliser cette population. Donc, notre équipe vient, il explique à la population les bienfaits de cet exercice. Bien sûr, nous précédons cette étape-là par une bonne sensibilisation. Donc, notre population ou nos auditeurs ne s'inquiètent pas beaucoup parce qu'au moment où nous serons prêts avec l'étape de la collecte, nous allons ratisser large en termes de sensibilisation parce que nous savons que la sensibilisation est une des clés majeures pour pouvoir réussir une telle opération. Donc nous sensibilisons la population et les cas échéants, nous recourons à l'autorité locale, donc c'est un chef de quartier, chef de rue, qui sera déjà sensibilisé et même impliqué dans la sensibilisation pour aider ces ménages à comprendre les bienfaits de sa participation à l'opération.
Nous allons prendre les questions d'un autre auditeur qui est en ligne, Monsengo Aristide, nous appelle depuis Maragui. Monsengo Aristide, veuillez éteindre votre poste récepteur pour nous permettre de communiquer avec vous dans toute sérénité. Bonjour, et vous pouvez prendre la parole à présent, si cela est déjà fait.
Ah, bonjour madame, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à notre
On vous écoute, Monsengo Aristide.
J'ai une petite question par rapport à la cartographie lors de l'enregistrement de la population sur notre pays. Alors, sur le plan un peu démographique, maintenant, par exemple, moi, je suis à Maggi. Alors, maintenant, comment on va procéder pour enregistrer ces cartographes et quel est le critère exact pour sélectionner tous ces gens-là qui seront éligibles à ce recrutement des cartographes, déjà chargés pour la cartographie. Ensuite, je voulais aussi bondir dans le sens où nous avons vécu cette situation avec la CENI, avec elle, pendant l'enregistrement des cartographes, pendant l'ordonnance de 2020. Alors, il y avait un souci par rapport à ce problème, parce qu'on peut envoyer un cartographe qui ne maîtrise pas les milieux. Qui ne maîtrise pas les milieux. Prenons par exemple, on prend quelqu'un de Bounengue de Kinshasa pour venir faire la cartographie ou ici à Maggi. Alors maintenant, lui, il n'est pas censé de connaître toutes ces situations qu'on passe à Maggi parce que quand vous à Kinshasa, vous parlez de villes. Vous, ici à Maggi, nous, on parle de la situation du village. Donc, vous voyez maintenant, il y a une très, très, très grande différence. Avec la situation de la ville, on parle de la commune, on parle des quartiers, on parle des cités. Pourtant, ici, on parle de villages, de Limbangoumi, des groupements et de la chefferie. Alors, maintenant, pour adapter tout ce système-là, dans ce système de cartographie-là, comment on va procéder pour un peu pallier tous ces problèmes qu'on a vécu dans les situations passées? Merci.
Merci beaucoup. Merci à vous, Monsengo Aristide. Monsieur Henri Marie, quels sont les critères de sélection des agents? Quel profil cherchez-vous?
Déjà, à l'étape de la cartographie, nous avons comme niveau d'instruction minimum Bac plus 3 ou gradué. Peut-être dans les nouveaux systèmes LMD, c'est licence, donc Bac plus 3 comme niveau d'instruction minimum. Et ceci, c'est au regard de la particularité des travaux de la cartographie. Donc la touche qui demande un certain profil un peu renforcé et aussi au regard de l'effectif attendu à l'étape de la cartographie. Et au-delà du niveau d'instruction, la personne doit avoir une maîtrise dans la manipulation de l'outil informatique, notamment un smartphone. Et au-delà de la question du smartphone, la personne doit avoir une maîtrise du milieu. Donc, il doit être un résident dans la partie du pays où il postule.
Mais il y en a qui évoquent justement les difficultés liées à l'accès à Internet pour les inscriptions. C'est pas à la portée de tout le monde.
Raison pour laquelle nous avons prévu pour les cas de province la possibilité de récupération des dossiers physiques. Donc pour permettre à ce que pour les cas de province qu'on ait les deux possibilités. Bon, ceux-là qui vont soumettre directement les candidatures à travers les réseaux Internet pour les zones mieux couvertes et pour des zones difficiles où il y a pas de couverture, nous allons leur indiquer des endroits où ils vont déposer les dossiers physiques.
Un mot peut-être pour finir, rapidement, en quelques secondes.
Nous disons à nos auditeurs et à notre population à travers la radio CAPI que l'exercice que nous faisons vise cette sensibilisation. Et au-delà de l'exercice de la sensibilisation, nous leur garantissons que le processus sera transparent, parce que nous avons pris toutes les précautions pour que nous puissions avoir les bons profils, qu'ils n'hésitent pas d'envoyer leur candidature.
Merci beaucoup, monsieur Henri. Marie Kazadi, je rappelle que vous êtes coordonnateur technique du bureau central du recensement BCR. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été nombreux à participer à cette émission et à la suivre. Hein. Donc, restez à l'écoute du programme de la Fréquence de la Paix. On se retrouve jeudi pour un autre numéro de Parole aux auditeurs.